Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour beaucoup d'entre nous, le confinement a été une période d'introspection. Vous avez peut-être, vous aussi, eu envie de déménager ou carrément de changer de vie. Pour accompagner cette réflexion, Code Source vous propose, pendant ses vacances d'été, 6 témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà franchi le pas au micro de Claudia Prolongeau. Aujourd'hui, Ariane Dubois, 38 ans, après un burn-out, elle a abandonné le milieu de la mode. Elle est aujourd'hui journaliste.
J'ai rencontré Ariane chez elle, en région parisienne, dans un appartement où on l'héberge. Elle me montre l'endroit où elle écrit, s'extasie devant une vue dont elle ne se lasse toujours pas, puis me sert du thé en me précisant qu'il est très rare qu'elle reçoive ici, même ses proches. Elle a 38 ans, semble détendue, porte un t-shirt sur lequel est imprimé le célèbre portrait de la jeune fille à la perle et un bandeau bleu dans ses longs cheveux noirs. Ariane vient d'une famille où l'argent compte. Une famille où on s'est fait tout seul et pour qui la valeur travail est au centre. Comme elle le résume, travail égale argent et argent égale bonheur.
Au tout début, j'étais passionnée d'histoire, donc j'aurais voulu travailler dans l'histoire, mais ça, dans ma famille, c'était pas possible. L'histoire, c'est bien en société autour d'un dîner, mais c'est pas bon pour les affaires. Donc on m'a gentiment dit, non, une terminale L, t'oublies, tu peux faire une école de commerce, ma fille. Donc je me suis retrouvée en école de commerce, alors j'ai surtout appris à faire la fête, au final, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Mais je ne voulais pas aller dans les secteurs, on va dire, un peu tout tracés, c'est-à-dire en banque, en finance, dans ces métiers qui sont censés être successful. Moi, je veux dire, ma mère rêvait que sa fille ait un emploi CDI en banque, monter des échelons. Dommage pour elle, je me suis dit, ok, le CDI, j'avais bien compris qu'il fallait avoir un truc quand même un peu stable, mais dans un secteur un peu plus rock'n'roll, et je me suis dit la mode.
Ariane a toujours aimé faire du shopping, et c'est une activité qui ne l'ennuie jamais. Ces deux constats l'amènent donc dans ce milieu qui s'accorde avec les ambitions que ses parents ont pour elle.
Il y avait quand même un truc de sympa, l'école de commerce, c'est qu'elle vous apprend à être imbue de vous-même, parce qu'on vous dit que vous êtes génial, que vous êtes les futurs dirigeants de demain, les futurs patrons, etc. Donc j'avais un gros melon en sortant, et en même temps, on vous apprend à être corvéable à merci. On vous fout des examens à tire-larigot, vous bossez quand même énormément. Donc j'étais un bon petit mouton de panurge. Alors j'ai commencé en bas des échelons, j'étais assistante acheteuse à cette époque, et puis j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup, j'ai dit merci, j'ai beaucoup fait la fête pour enlever tout le stress ou toute la pression que j'avais. J'ai gravi les échelons et je suis arrivée directrice de collection. Ça, au bout de 7 ans. Je suis passée par différentes maisons de mode, plusieurs boîtes, plusieurs pays. Et toujours la même folie. En fait, plus je montais les échelons et plus je devenais complètement tarée. J'étais prise dans un truc, les défilés et les collections. Et donc, en plus, travaillais beaucoup. J'étais dans un speed infernal et j'aimais ça.
Pendant 10 ans, Ariane poursuit une carrière dont elle n'aurait pas osé rêver. Elle a un job en or et tout le monde le lui rappelle tout le temps.
Jusqu'au jour où le drame. Le drame s'est passé la veille d'un défilé. Énième défilé, énième pression, énième heure de travail à rallonge jusqu'à 3h du mat. Et là, tout a basculé sur l'arrivée d'une jupe culotte qui n'est pas de la bonne couleur. Voilà, elle devait être un certain rose, elle arrive à un rose dégueulasse, et ça, à la veille d'un défilé, c'est juste pas possible, c'est la clé de voûte qui fait tomber tout l'édifice. Et l'édifice s'écroule, et quand l'édifice s'écroule dans la mode, et ben c'est une hystérie générale. Et donc les gens hurlent, les gens courent partout, c'est un pétage de plomb généralisé, moi j'ai l'impression que ça y est, que ma vie s'arrête, que c'est fini, et c'est vraiment fini. En une seconde, je conscientise tout ce qui a été ces 10 ans. De ma vie, c'est-à-dire que elle était complètement vide, hein, vide de sens. Ça tournait autour d'un bout de chiffon. La grande question qui me préoccupait chaque jour et qui me faisait lever le matin, c'est quel bout de chiffon se mettre sur le cul pour avoir l'air d'être quelqu'un. Voilà, c'est ça qui était mon travail et que je prenais avec une ardeur et une importance qui est sûrement la même d'un chirurgien cardiaque quand il fait un double pontage, quoi. Moi, je faisais un double pontage d'un col Claudine, on soit bien d'accord. Donc là, c'est pas que je me sens misérable, c'est que je me sens plus rien. Je suis à ce moment-là rien et j'ai compris que ça fait quand même 30 ans que ça dure. Que j'ai été menée sur un truc, je sais même pas pourquoi j'ai été là-dedans, que je sais pas pourquoi j'ai fait ces écoles, que j'ai été à l'école, que j'ai fait une école de commerce, que j'ai terminé là-dedans, que j'ai fait ces boulots-là, je ne sais pas, je m'aperçois que je suis pas du tout à la barre de ma vie, que j'ai jamais été. Et ça, c'est hyper grave. On est en train de me parler, je me lève et je me casse, sans répondre. La seule chose que j'ai pu faire, c'est prendre mon sac. Alors c'est rigolo parce que c'était un sac Chanel. Je suis arrivée chez moi, je ne sais pas comment, je ne m'en souviens pas. Je me mets en pyjama, en pilou charentaise, et je sors comme ça. Je vais à la gare Montparnasse, je prends un train et... J'atterris 2 heures plus tard chez Mamie Pierrette, chez ma grand-mère, en Charente.
Entre ces deux moments, Ariane ne se souvient presque de rien. Seulement que des gens autour d'elle rient, essayent de lui parler et qu'elle ne répond pas.
C'est comme dans un espèce de rêve, quoi. Il y a une dissociation qui se fait. Et tant mieux, j'arrive chez Mamie, je vois Mamie, elle hallucine. Et c'est son regard qui me fait peur, en fait, qui est un miroir de moi-même. Et je me dis, ok, là, c'est grave. Et c'est le second coup de grâce où je tombe à ses pieds, là, cette fois physiquement, littéralement, il y a tout qui tombe. Elle me traîne jusqu'au lit et je suis restée dans ce lit pendant des mois, sans pouvoir en sortir. Et donc là, ça a été la descente aux enfers. Enfin, pas vraiment. La descente aux enfers, elle s'était faite avant, pendant 10 ans. Ça a été... Le crash, quand un avion est en vol et que tout s'affole, qu'on est en chute libre, c'est le moment violent, c'est la chute. Et en fait, à partir du moment où l'avion s'écrase, bah, y a un gros boom et après, il n'y a plus de bruit, quoi. Là, je m'étais écrasée. Et moi, j'étais dans cette situation-là où il n'y avait plus de bruit. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus grand-chose. Et c'était bien. Pour la première fois, je m'en foutais. Je m'en foutais de tout. Même de vivre. Manger ne m'intéressait pas. Parler, évidemment, on n'en parle même pas. J'arrivais même plus, pour la première fois, à me préoccuper de moi-même. Et ça, ça fait vachement de bien de plus se préoccuper de soi-même. Je n'en avais rien à foutre de ce qui pouvait m'arriver. Et ça, ça ne m'a pas lâchée, d'ailleurs, et c'est ce qui fait que je suis très sereine aujourd'hui. J'avais passé 30 ans de ma vie à essayer de tout contrôler, que ça soit mon poids, mon compte en banque, mes amours, mes emmerdes, mon boulot, tout. Je devais tout contrôler, être top dans tout, être la bonne élève, être la première de la classe, être en mode warrior. Et là, waouh, j'étais plus rien. J'étais une merde. Ça fait du bien.
Les médecins arrivent et posent un mot sur la situation que vit Ariane. Elle fait un burn-out. Quand elle entend ça, évidemment, Ariane s'en fiche, comme de tout le reste.
J'ai même senti à un moment donné que la vie partait un peu. Et je sentais que même le corps arrêtait un peu de se battre. Il arrêtait de réclamer à bouffer, il arrêtait de réclamer d'aller pisser. Il arrêtait de réclamer ces choses qui m'étaient devenues même un peu pénibles. Donc même le corps se taisait. Ça me faisait énormément de bien. Je me suis dit, c'est ça la mort, qu'est-ce qu'on redoute en fait ? Voilà, et ça a duré 6 mois. Ce qui m'a raccrochée à un moment donné à la vie, c'est une envie. J'ai eu envie de bouffer. Mais quand vous avez passé 6 mois sans avoir rien envie de manger, c'est extraordinaire. On était au début juin, donc c'était l'époque des tomates. La fenêtre était ouverte, ça sentait. Et j'ai dit, quand Mamie Pierrette est venue, elle venait tous les matins, j'ai dit, écoute Mamie, j'ai envie de manger une tomate mozzarella. Je pense que déjà, ça faisait quelques semaines qu'elle n'avait pas entendu le son de ma voix. Et en plus, envie de manger, mais Mamie, elle en a pleuré, quoi. Ça a été un moment d'intense émotion. Et elle a dit, ok, ma petite fille va vivre. Et moi aussi, j'ai pris conscience, là encore dans son regard, c'est bon.
après la tomate mozza, Ariane y Astérix. Ça la fait rire. Ça non plus, ça ne lui était pas arrivé depuis longtemps. À partir de ce moment-là, Ariane décide que sa vie ne sera désormais que celle-ci. Celle de quelqu'un qui prend du temps pour lire un Astérix, juste parce qu'il en a envie. Mais pendant les 6 mois qui viennent de s'écouler, pour les autres, la vie ne s'est pas arrêtée. Comme Ariane a abandonné son poste, elle n'a pas d'indemnité et il est hors de question pour ses parents de l'aider. Et donc très vite, Ariane va être rattrapée.
J'ai quand même gardé l'appartement dans lequel j'étais pendant près de 2 ans. Donc déjà pendant 6 mois parce que j'y étais pas. Et ensuite parce que je faisais des allers-retours entre Paris et chez ma grand-mère. Et puis pendant ce temps-là, il fallait pallier un loyer qui était extrêmement cher. Pendant 6 mois, les économies ont payé le loyer. Mais ensuite, j'avais plus rien. Et donc j'ai commencé à accumuler des dettes, des impayés. J'ai été en procédure parce que quand vous payez pas, c'est la loi. À un moment donné, vous avez un procès, on constate. J'ai évidemment perdu mon procès. Donc j'ai été sommée de tout rembourser. C'était des sommes énormes, plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est pour ça que je suis allée voir une assistante sociale pour faire des dossiers et pour essayer de me reloger. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais mademoiselle, vous êtes célibataire, vous êtes sans enfant, en fait, j'ai pas de solution pour vous, appelez le 115 ».
Heureusement pour elle, Ariane n'est pas obligée d'en arriver là. Sa meilleure amie, une des seules qui est restée, peut l'héberger avec elle dans son 25 mètres carrés. Mais même si elle n'appelle pas le 115, elle comprend que c'est le début de nouvelles difficultés.
J'avais 2 solutions, soit j'appuierais mes dettes au fur et à mesure, mais comme j'étais sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça allait être hyper long. Ils m'ont même proposé la situation de la Banque de France, en fait. Et je me suis retrouvée à la Banque de France à faire un dossier de demande d'annulation de dette, parce que finalement, on peut annuler la dette, mais dans ce cas-là, vous êtes fiché. Et fiché, c'est lourd de conséquences, c'est-à-dire que j'allais me retrouver sans chéquier, sans carte de crédit, sans aucun moyen de paiement. Je devais me rendre dans des guichets pour retirer de l'argent avec un certain montant par semaine. Ça veut dire plus pouvoir voyager, ça veut plus dire, c'est énorme comme contrainte. Et surtout, être fiché pendant, alors je sais plus exactement le nombre d'années, mais c'est un nombre d'années impressionnant, je me demande, c'est pas 10 ans. J'avais plus un rond, j'étais à 2 doigts d'être fiché à la Banque de France, et j'étais expulsée. Manu Militari, avec le commissaire de justice qui vient foutre dehors, quoi. Donc j'étais à ce que je pense est le cauchemar de tout un chacun. Et je pense que beaucoup de gens travaillent justement pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, ce qui a sûrement dû être mon cas. Et en fait, malgré ça, j'avais une sérénité que je n'ai jamais eue en gagnant entre 5 et 10 000 balles par mois. Donc j'ai finalement eu un peu peur de cette solution Banque de France, ou alors ça aurait été confortable, oui d'accord, il n'y a plus de dette, pouf, 40 000 euros qui s'évanouissent, mais c'était pas possible, donc j'ai préféré qu'on fasse ce qu'on appelle des plans d'apurement de dette, et en fait même encore aujourd'hui, tout ce que je gagne est ponctionné directement de mon compte, c'est ce qu'on appelle les saisies bancaires. Voilà, je les dois à un huissier. Donc, à chaque fois qu'il gagne de l'argent, un huissier ponctionne sur mon compte l'argent que je lui dois. Donc, je suis toujours pas sortie de mes galères financières, évidemment. Voilà, le burn-out, c'est pas seulement une galère psychologique, c'est aussi une galère financière. Mais en même temps, faut pas s'en faire un monde de ça. Il y a un certain montant qui est nécessaire, c'est-à-dire quand on peut se loger minimum décemment et pouvoir manger à sa faim. J'y pense pas au quotidien, Dieu merci. C'est comme ça, c'est comme c'est, et c'est pas grave. Souvent on me dit « oui, mais toi t'as pas peur d'être dans la rue, tu viens d'une famille qui a quand même de l'argent. » Non, 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 non. La banqueroute peut toucher tout le monde. Moi, si j'avais cru ça, je me serais dit « ah bah oui, ça va, moi j'ai ma famille, je m'en sortirai. » Bah non, elle était pas là, ma famille. J'ai passé 2 ans à pas parler avec mes parents. Donc, on se retrouve seul. Les gens comprennent pas ce que c'est un burn-out. Alors, il y a des gens qui juste en avaient rien à foutre de vous. Il y a ceux qui ne comprennent pas et tant pis pour eux, ce qui était longtemps le cas de mes parents. Puis, il y a ceux qui restent, les piliers. Ma mamie Pierrette, ma meilleure amie, mon meilleur ami, point.
Là, vos parents, c'est fini, vous vous reparlez, ça va mieux.
Oui, oui, oui. Mon cercle familial, ça va un peu mieux. Bien sûr, j'ai quand même déçu.
Et vous en avez voulu à vos parents de vous avoir poussé dans cette voie, de vous avoir fait faire cette école de commerce et...
Oui, énormément. Après le burn-out, je pense que je leur en ai voulu. Je pense que c'est un passage obligé, il faut en vouloir à quelqu'un, il vous faut un bouc émissaire. Parce que tout, c'est tellement de souffrance, c'est tellement dur, c'est tellement violent, qu'on ne peut pas se remettre en cause tout de suite, soi. Et on se dit, mais pourquoi ils m'ont fait faire tout ça? Pourquoi on m'a dit toutes ces conneries auxquelles j'ai cru? Il vous faut des ennemis, et ces gens qui ne vous comprennent pas deviennent vos ennemis.
Pendant ce temps-là où elle ne travaille plus, Ariane revient à sa première passion, l'histoire. Chez sa grand-mère, elle écrit le voyage d'une fashionista de 2015 qui se retrouve soudainement transportée au XVIe siècle et qui deviendra le roman « Pétage de plomb » chez François Ier.
Je savais même pas que ça allait donner un roman historique. Je me disais pas, j'écris un roman historique pour me faire publier. Hein. Non, là, j'avais lâché l'affaire sur moi et les projections de moi-même. Hein. J'écrivais parce que j'avais besoin d'écrire. Et il s'est avéré que c'est devenu un bouquin parce que j'ai écrit beaucoup. Et qu'à un moment donné, j'en ai parlé à une copine qui connaissait une copine d'un pote de je sais pas quoi. Boum, je me suis retrouvée un jour assis en face d'un mec qui s'appelait Hugues de Saint-Vincent, directeur d'une société d'édition. Et il me dit, ça me fait marrer ton truc. Je l'édite.
Alors qu'elle ne contrôle plus rien, Ariane est invitée par Stéphane Bern dans l'émission « Comment ça va bien ?» pour parler de son livre.
Bonjour Ariane, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de « Pétage de plomb » chez François Ier.
Voilà. C'est exact. Et quelques mois après, son producteur me rappelle et me dit « Voilà, Stéphane Bern a une quotidienne qu'on lui propose sur France 2 qui parle d'histoire et de patrimoine. Est-ce que vous voulez en faire partie ?» Et vous présentez, vous faites des sujets, etc. Oh, ça a été incroyable. Je crois que je suis tombée le cul par terre, quoi. Et aujourd'hui, je continue à m'émerveiller, en fait. Je sais pas ce que je ferai demain. Aujourd'hui, je continue à travailler non plus avec Stéphane Bern, mais je travaille toujours pour France Télévisions et j'explique l'histoire et l'histoire de l'art aux enfants sur une émission qui s'appelle Lumni. Pareil, pour moi, c'est ouf, quoi.
Pendant plusieurs années, Ariane ne parle pas de son burn-out. Quand on lui demande comment elle en est arrivée au journalisme, elle aimerait bien dire la vérité, mais c'est trop dur pour elle de raconter. Un jour, une de ses amies lui demande de le faire face caméra pour un site internet qu'elle veut lancer. La vidéo publiée sur les déviations fait 6 millions de vues.
Des éditeurs m'ont contactée, dont Flammarion, et ils m'ont donné l'opportunité d'écrire ce livre, qui s'appelle « Ne t'inquiète pas, tout va bien », qui était la phrase donc de Mamie Pierrette. Elle avait tellement raison, Mamie Pierrette, du haut de ses 86 ans. Elle savait qu'il fallait mourir pour mieux renaître à d'autres choses. C'est pas donner des conseils, parce que qui suis-je pour donner des conseils, mais en tout cas donner les conseils que j'aurais aimé me donner à moi-même 10 ans auparavant. Je pense que le burn-out, c'est juste un stop quand vous êtes dans une direction erronée. En fait, c'est une très bonne chose. Et donc, j'ai écrit.
Dans sa nouvelle vie, Ariane a en tête de comprendre comment atteindre le bonheur. Pour cela, elle lit Aristote, Épicure, Platon et découvre sa caverne dans laquelle des hommes enchaînés et immobilisés dans une demeure souterraine tournent le dos à l'entrée et ne voient que leurs ombres.
J'avais besoin de sortir cette putain de caverne de Platon et d'enfin voir le soleil, donc je suis partie en Inde pour ça. Et là, j'ai recommencé à faire mes premiers pas. J'étais dans un ashram à Rishikesh, qui est une ville sainte près du Gange. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai su ce qu'était être heureuse. Le bonheur, en fait, c'est la sérénité. Mais on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais pas cru, hein, j'avais ta gueule. Il faut des escarpins, des loup-boutins et gagner 10 000 balles par mois. Hein, viens pas m'embrouiller avec tes trucs de bouffer du pain au bord du Gange, quoi. Et en fait, eh ben si, avoir le temps de vivre, c'est ça la clé du bonheur.
Claudia, Ariane, on dirait que plus rien ne peut l'atteindre aujourd'hui.
On dirait, et je pense que c'est pas loin d'être le cas. Elle vit effectivement détachée de plein de choses. Maintenant qu'elle a eu tous les problèmes qu'elle nous a expliqués, elle a vécu pas mal de choses finalement, même si elle a que 38 ans, et c'est vrai qu'elle est très sereine.
Elle parle beaucoup de sa grand-mère dans ce reportage, sa mamie Pierrette qui l'a beaucoup aidée, mais elle n'est plus de ce monde.
Non, sa mamie Pierrette est morte en 2015, elle me l'a dit à la fin de notre entretien. Elle s'est pas étendue sur le sujet, elle m'a dit que ça l'avait beaucoup affectée, mais elle m'a aussi dit que cette fameuse maison en Charente qu'avait sa grand-mère, sa famille l'a gardée et que donc elle y va encore régulièrement et que ça lui fait beaucoup de bien.
Ariane, qu'est-ce qu'elle pense de la mode aujourd'hui ?
Alors c'est assez marrant, évidemment quand elle est partie de ce milieu, elle a eu besoin de rompre avec la mode. Elle m'a dit que pendant 2 ans, ça n'avait plus du tout compté pour elle, qu'elle s'habillait tout le temps pareil, qu'elle faisait absolument pas attention à son apparence. Et puis en fait c'est quand même une fille qui aime beaucoup l'art, qui aime beaucoup les belles choses. Et donc elle est quand même revenue à ce premier amour. Donc maintenant elle ne s'achète plus des habits qui coûtent extrêmement cher. De temps en temps elle fait un peu de lèche-vitrine juste pour regarder parce qu'elle trouve que c'est beau. Mais elle a plus ce désir de poser session qu'elle avait avant.
Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Stéphane Genest et John Timsit. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.